Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Je prie afin que cette parole soit puissante dans votre cœur, qu'elle puisse produire du fruit et que Dieu vous bénisse et vous ouvre les yeux au travers de ces messages que vous recevez.
Nous allons commencer notre enseignement dans le livre de la Genèse. On va lire plusieurs passages de la parole de Dieu. Nous allons commencer par la Genèse ou Jean chapitre 13. J'aurais pu commencer par Jean chapitre 13 ou Genèse chapitre 3. Mais commençons par Genèse 3. Donc, ouvrez vos Bibles en Genèse chapitre 3, à partir du verset 15. Je lis, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Amen. Nous lisons maintenant Jean chapitre 13, Évangile selon Jean, dans le Nouveau Testament chapitre 13, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 13, voici un passage assez intriguant, assez intéressant du Seigneur qui a donné lieu à diverses interprétations, à beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans certaines églises, je ne dis pas que c'est faux parce que dans certaines églises, on fait des cérémonies, on lave les pieds, on lave les pieds. Je ne dis pas que c'est faux, je ne pense pas que ce soit particulièrement mauvais. Mais je ne veux pas apporter dans ce message un jugement là-dessus. Mais nous faire voir quelque chose que le Seigneur est en train de nous dire au travers de cette exhortation. Parce que je crois qu'au-delà du fait de laver les pieds, il y a quelque chose de plus profond, de plus fort que le Saint-Esprit, que Dieu est en train de nous expliquer là dans ce passage. Une révélation importante de la parole que nous ne savons pas. Le Seigneur ne dit-il pas dans sa parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisse Dieu ouvrir nos yeux, ouvrir notre entendement pour percevoir la profondeur de ce message. Je ne pense pas peut-être avoir saisi l'entièreté de cette révélation que le Seigneur dans sa grâce ayant me fait. Et je crois qu'en vous donnant cette exhortation, certains peut-être auront encore d'autres explications, d'autres révélations du Seigneur. Cela ne fera qu'enrichir ce que l'Esprit de Dieu a dit, car nous avons tous l'Esprit du Seigneur. Amen. D'où est venue cette exhortation que je veux partager avec vous? En ce temps, je travaillais encore dans le cabinet d'expertise immobilière à Cocody, en tant que géomètre. Et j'avais un collaborateur, un frère, le frère Lévi, un très bon frère, quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Et la boîte passait par un moment difficile, ça faisait un moment qu'on n'était pas payé, j'avais un peu d'autres sources de revenus, d'entrée, donc c'était assez difficile, mais j'avais quand même quelque chose. Et puis le frère Lévi est venu me voir, il a dit, ah, est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui pour rentrer chez moi à la maison? Il me restait tout juste un billet de 1000 francs CFA. Et la Bible dit, non, je sais que c'est un bon frère, c'est difficile, donc je dois l'aider, c'est normal. J'ai dit, bon, ok, ah, Lévi, j'ai pas grand-chose, bon, descendant, on va faire la monnaie, je vais casser ce billet de 1000 francs CFA en deux, billet de 500 francs CFA. Et donc, nous sommes descendus, on a vu une commerçante, là, elle nous a fait la monnaie. J'avais donc deux billets de 500 francs. J'ai décidé donc de lui donner un billet de 500 francs. Ça fait moitié-moitié. Ça paraît déjà très gentil. J'aurais pu lui donner juste un 200 francs CFA ou un 300 francs. Ça suffisait également, garder plus. Mais j'ai dit, soyez quitte, faisons moitié-moitié. Et c'était moi aussi mon dernier billet. Mais quand j'ai fait la monnaie des billets, la femme m'a donné deux billets donc de 500 francs. Il y avait un qui était un peu neuf et puis un qui était assez vieux, déchiré, un peu vieux billet. Et dans mon cas, j'ai dit, bon, naturellement, ça a la même valeur de toute façon, que ce soit déchiré, comment un billet de 500, c'est un billet de 500. Mais je vais lui donner, je vais lui donner le vilain billet. Et quand je lui ai dit, c'est comme ça que je me dis, mon cœur, mais pourquoi je ne lui donne pas le joli billet? Puis dans mon esprit, je dis, mais quand même, déjà, c'est un grand effort que je fais pour faire un partage moitié-moitié. Hein? J'aurais pu lui donner juste ce qu'il fallait pour le transport, mais je vais aller un peu plus. C'est normal quand même, c'est mon argent. C'est normal que je garde le meilleur billet, que je lui donne l'autre billet. Et quelque chose me dit, mais pourquoi tu ne lui donnes pas le joli billet? Peut-être qu'il ne prend pas le vilain billet. Je n'ai pas écouté la voix, c'était la voix du Saint-Esprit. Dieu me parlait. Et je lui ai donné le vilain billet. Pour lui, ce n'est pas important, l'essentiel va payer le transport. Et un billet de 500 francs, c'est un billet de 500 francs. Ça va nous faire permettre de faire les mêmes dépenses et tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de problème. Donc je prends mon billet et j'arrête un taxi pour aller à la Riviera. Ce jour-là, je devais prêcher à la cellule du mercredi soir. Je prends le taxi et heureusement, je monte avec une sœur de la cellule aussi qui partait à la cellule. Donc elle est là, elle est contente de me voir, je suis content et puis bon, on avance. Et quand on arrive à l'endroit où on va descendre, on doit payer le transport. Je cherche le billet de 500 francs, je ne le trouve pas. Heureusement que la sœur était là, donc elle a payé mon titre de transport. J'ai dit, mais où est passé? Mais Dieu me dit, mais c'est parce que tu n'as pas obéi. Tu as perdu ce que tu voulais. Si tu avais gardé le billet, je t'aurais béni. Ça serait mieux. J'ai dit, mais c'est quelle affaire du billet, d'un billet, 500 francs, 500 francs. Pourquoi tu es sur des problèmes de billets? Et donc là, j'arrive et ce jour-là, l'Esprit Dieu me dit, prêche sur les billets. J'ai dit, mais j'ai dit quoi sur les billets? Et vous savez, généralement, comme le Seigneur me fait la grâce de rester un ministère prophétique, la plupart des messages que je donne viennent par révélation. Voilà. Ce sont des révélations, ça ne me vient plus. Donc je me suis mis, j'ai commencé à lire, tu me dis de lire Jean chapitre 13, j'ai commencé à lire Jean chapitre 13, et pendant que je lisais, c'est en ce moment que le Seigneur va ouvrir mes pieds, va ouvrir, pardon, mes yeux, pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. Ok. Donc revenons à notre passage de base, Jean chapitre 13 et Genèse chapitre 3 à partir du verset 15. Ici, l'histoire raconte quelque chose que Jésus va faire avant de mourir, avant de partir. Il va appeler ses disciples et la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour. Il va venir, il va prendre de l'eau, il va se déshabiller et il va commencer à laver les pieds des disciples. Et les disciples n'ont pas réagi. Je trouve que ce n'est pas normal. Que le maître vienne vous laver les pieds. Aujourd'hui, bon, dans l'église, je me considère comme le pasteur. Si je me lève, puis je viens vous lavez les pieds ou bien vous avez de la sueur, je prends un mouchoir, je couvre vous pour enlever la sueur. Vous avez dit, mais pasteur, ne fais pas ça. À cause de la considération et du respect, je ne comprends pas. Comment ils peuvent accepter que Jésus vienne laver les pieds, puis ils sont d'accord. Mais bon, peut-être qu'ils étaient étonnés et comme ils avaient confiance en Jésus, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils n'ont rien dit. Alors Jésus arrive jusqu'à Pierre. Quand il arrive à Pierre, Pierre dit, non Seigneur, toi mon maître, tu ne peux pas me laver les pieds à moi. C'est une relation normale. Et Jésus va dire quelque chose à Pierre. Il dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Là déjà, ça commence à être quelque chose d'assez fort. En quoi est-ce que laver les pieds de Pierre peuvent amener Pierre à avoir une part avec Jésus? Pourquoi ne pas laver les pieds a une influence sur la part que les disciples peuvent avoir avec le Seigneur? Là, ça devient profond. Et puis, donc, Jésus continue. Pierre dit, ah, donc si c'est un problème de ne pas avoir une part avec toi, si c'est Seigneur, combien de fois je t'aime et combien de fois j'ai envie d'être avec toi? Pierre lui dit, bon Seigneur, si c'est comme ça, non, c'est mon problème, laver les pieds. Lave-moi les pieds, les mains, la tête, lave-moi tout le corps. Jésus va dire, regardez cette phrase-là qui est très forte. Jésus va dire, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Non pas tous, il y a quelqu'un qui n'est pas pur. Il dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Déjà, vous êtes pur et non pas tous. On peut le relire. Je commence verset 6. Il vient donc à Simon Pierre. Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Comprenons donc que ce que Christ est en train de manifester, c'est un mystère. Parce que, qu'y a-t-il d'incompréhensible ou de mystérieux à interpréter que de quelqu'un qui vient laver simplement les pieds? Si je te dis, Pierre, tu ne comprends pas maintenant, il ne s'agit donc pas de l'évidence du laver des pieds, du lavement des pieds, mais c'est plutôt d'un message spirituel. Et il continue donc, il dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Ah, c'est très fort. Jésus dit, celui qui est lavé, quand quelqu'un s'est lavé, il ne lui reste plus que les pieds pour qu'il soit entièrement pur. Ça veut dire que lorsque même quelqu'un s'est lavé, il n'est pas entièrement pur. Il lui reste les pieds. Pour dire que je ne laverai pas le reste de ton corps parce que tu es déjà lavé. Mais il te reste les pieds. Ce sont les pieds là que je vais donc maintenant laver. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc Christ dit, vous êtes purs. Mais vous n'êtes pas entièrement purs. Il vous reste les pieds pour être entièrement purs. Ils sont déjà purs, mais pas entièrement. Et car il connaissait, bon, il dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Il parlait de Judas. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il lui lavait les pieds et qu'il lui prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et après, Christ va donner l'explication à peu près. Vous m'appelez maître Seigneur et vous dites bien car je le suis. J'arriverai tout à l'heure là-dessus. Mais je veux que vous puissiez réaliser l'importance du ministère qui est là, qui est dit par le Seigneur. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'es pas entièrement pur. Ça veut dire que les disciples étaient déjà purs. Est-ce qu'il y a une fois dans la parole de Dieu où Jésus les a lavés entièrement? Les Écritures ne nous montrent pas. Si on veut peut-être parler du baptême. Ils avaient déjà pu, mais restaient les pieds. C'est ça le but de notre enseignement, les pieds. En quoi consiste, qu'est-ce que ça veut dire laver les pieds? Pourquoi quelqu'un qui est déjà lavé doit encore se laver les pieds pour être entièrement pur? Peut-être qu'aujourd'hui tu es pur, tu as accepté Jésus, tu es sanctifié, tu es purifié, mais il faut laver tes pieds. Dis à ton voisin, lave. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Revenons sur notre passage de Genèse, le chapitre 3, Genèse 3, à partir du verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le talon, il se trouve là, sur les pieds, n'est-ce pas? Le talon, c'est sur les pieds. Il dit, tu lui écraseras la tête, pardon, celle-ci t'écraseras la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le chapitre 3, de quoi il s'agit? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin, le jardin d'Éden, dans lequel il avait disposé deux arbres fruitiers particuliers, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était interdit à l'homme de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le serpent étant venu vers la femme, l'a séduite et l'a, pardon, et l'a menée à consommer le fruit ayant donné à son mari. Lorsqu'ils ont consommé les fruits, ils se sont tous deux rendus compte qu'ils étaient nus. Ils vont donc aller se cacher et se faire des vêtements de figuier, de figues. Amen. Alléluia. Là encore, il y a un autre mystère que nous expliquerons dans un autre enseignement. Ils ont pris les figuiers. Ça explique certaines choses pourquoi Jésus a maudit un jour un figuier. C'est notre enseignement dont nous parlerons plus tard. Alors donc, ils vont donc se couvrir et Dieu va arriver. Dieu va dire, mais pourquoi il va appeler l'homme, il va appeler l'homme, pardon. Il va demander, mais pourquoi tu caches? Est-ce que tu veux manger du fruit? L'homme va dire, c'est la femme qui l'interroge dira que c'est le serpent. Et Dieu va donc parler au serpent. Il dira, serpent, comme tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail. Tu ramperas sur ton ventre tous les jours de ta vie. Pardon, tu ramperas sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et il va dire à la femme, je mettrai inimitié entre ta postérité, ça veut dire la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et la postérité du serpent blessera le talon de la postérité de la femme. Et donc ainsi de suite, il va continuer jusqu'à arriver à l'homme, dit les conséquences du péché, de la désobéissance de l'homme, jusqu'à ce qu'il dira à l'homme, homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il y a beaucoup de mystères dans ce passage de Genèse chapitre 3 qui explique tous les problèmes de l'humanité et tout ce que Christ a fait. Premièrement, Dieu maudit le serpent. Nous savons que le serpent, c'est le diable, appelé le serpent ancien, c'est Satan. Dieu va dire au diable, Satan, tu vas ramper sur ton ventre. Généralement, nous avons l'image d'un serpent. Un serpent qui, sinon, avait des pieds, devait marcher. Bon. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond. Amen. Alléluia. Peut-être j'aborderai cela dans le message sur les pieds parce que je vais le faire en deux temps. Ce dont le serpent était privé, il ne peut plus marcher. Il a été privé aussi des jambes, des pieds. Et le serpent donc va dire tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est un pouvoir dans ce passage-là que Dieu donne au diable de manger la poussière tous les jours de sa vie. Vous concevez avec moi que le serpent n'a pas pour nourriture la poussière. Un serpent, il mange les petits animaux, les petites souris, les rats, etc., etc. Il n'a pas pour aliment la poussière. Ceux qui font l'élevage des serpents savent bien qu'on n'offre pas au repas au serpent la poussière. On lui donne plutôt des petits animaux à manger. Ou si c'est un gros serpent comme les pitons et les bois, on leur donne des choses plus grosses. Donc, le serpent ne mange pas la poussière, mais c'est quelque chose que Dieu est en train de lui dire. C'est pourquoi quand il dit aussi que tu vas ramper, c'est quelque chose qu'il est en train de dire. Ce n'est pas quelqu'un qui marchait qui a commencé à ramper. Alors Dieu dit, donc tu vas manger de la poussière. Ici, Dieu était simplement en train de dire qu'il donnait le pouvoir au serpent sur l'homme. Parce que plus bas, il dit à l'homme, il dit, homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme est poussière, il retourne à la poussière et le serpent mange la poussière. Alléluia. Donc Dieu était simplement en train de dire au serpent, serpent, tu vas manger l'homme tous les jours de ta vie. Quand il dit à l'homme, tu mangeras de la poussière, quand il dit au serpent, pardon, tu mangeras de la poussière, il disait au diable, Satan, tu mangeras l'homme poussière tous les jours de ta vie. Dieu a fait de l'homme poussière la nourriture du diable. Qu'est-ce que c'est que l'homme poussière? L'homme poussière, c'est la partie chair de l'homme. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris de la poussière et c'est là qu'il a conçu la chair. Donc, en fait, la chair émane de la poussière. Mais l'esprit qui est en nous vient de l'esprit de Dieu. Donc, Dieu dit au serpent qu'il a reçu le pouvoir de manger la chair. Alléluia. Alléluia. Parce que il ne dit pas à l'homme que quand tu vas mourir, tu vas devenir la poussière. Il dit, tu es poussière d'abord. Tu deviendras poussière. Donc, tu deviendras poussière. Donc, le serpent mange la poussière qui est l'homme charnel. Cela veut dire tout simplement quoi que le diable consomme, utilise, maltraite, possède, domine tout homme charnel. Ça veut dire tout homme qui vit selon les principes de la chair qui sont décrits dans Galates. n'est-ce pas? Les œufs de la chair, l'impudicité, le mensonge, le vol, etc., etc. Ça, c'est la nourriture du diable. Lorsque quelqu'un vit selon les œufs de la chair, il devient comestible pour Satan. Si tu vis dans le mensonge, Satan peut te manger. Ce n'est pas un vol, c'est un pouvoir qu'il a reçu de Dieu, c'est son droit. Et il l'applique sans problème. Tout homme charnel peut être mangé par le diable. Tu vis dans l'impudicité, Satan peut te posséder, peut te détruire. Tu vis dans le péché, il a le droit d'attenter à ta vie. Il peut ne pas le faire. Je veux dire, tout ce que je peux manger, je ne mange pas ça forcément. Il peut te laisser libre un temps. Mais il peut, le jour où il a décidé de te détruire, il peut le faire sans problème aussi. Mais là n'est pas le but de notre message. Nous reviendrons là-dessus sur l'enseignement sur la vie chrétienne victorieuse lorsque nous parlons de vaincre la chair. Je reviendrai sur cette partie du serpent qui mange la poussière. Et donc, ce n'est pas une affaire de généralité de l'homme. Tout homme qui ne craint pas Dieu est sous le pouvoir du diable. Voilà ce que ce passage est en train de dire, Genèse 3.15. Mais Dieu ne va pas laisser l'homme sous un tel esclavage. Il va donc dire à la femme, mais le serpent, voilà, tu vas manger l'homme, mais ce n'est pas fini. C'est l'homme qui va te détruire. Comment? Il dit, mais je susciterai de la femme une postérité. Cette postérité-là t'écrasera la tête. Et toi, le serpent, tu vas lui blesser le talon. Ah! Donc, Dieu a trouvé la solution au problème de l'homme. Il va susciter dans la descendance de l'homme quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Et ce quelqu'un qui écrase la tête du serpent, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Et nous qui sommes co-héritiers avec lui. Dès que je crois en Jésus, dès que je donne ma vie à Jésus, la Bible dit que je suis né de nouveau. J'appartiens donc à la postérité de la femme. Et cette postérité a le pouvoir d'écraser la tête du serpent. C'est pourquoi en Luc chapitre 10, verset 19, Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Et qui a le pouvoir d'écraser la tête du serpent? Ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous voyez bien que dans l'Ancien Testament, parce que Christ n'était pas encore venu, les gens ne faisaient pas encore de délivrance. Il arrivait à calmer les esprits. David partait juste calmer le démon qui fatiguait Saül. Mais il n'a pas chassé l'esprit qui fatiguait Saül. Il n'y avait pas de délivrance. Les prophètes Élie et autres n'ont pas fait de délivrance. Ils ont juste parlé à des gens, ils ont calmé des esprits, ils ont prié pour que des malades soient guéris, mais ils ne faisaient pas de délivrance. C'est-à-dire, le pouvoir d'écraser le diable n'était pas encore manifesté. Il s'est manifesté avec Jésus, car c'est là qu'a été manifesté la puissance, le pouvoir de la délivrance et le pouvoir de dominer et d'écraser le diable. Alléluia. Et ce pouvoir-là nous était communiqué, car au nom de Jésus, nous chassons les démons. C'est une victoire. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Mais, et j'aime bien encore cette explication, parce que vous savez, quand dans la Bible, lorsqu'il est question de généalogie, ou bien de descendance, Dieu ne parle pas de la femme. Il cite très souvent l'homme. Quand il veut dire, tant est enfant de temps, bien tant enfanté tant, il cite l'homme. Parce que l'homme est le chef de la famille, l'homme et la femme étant uniformément une seule chair, Dieu cite le nom du père, l'homme, le chef de la famille. Donc Dieu cite tant enfanté tant. Mais ici, il veut parler d'une descendance. Il aurait pu dire, Adam, la descendance va écraser la tête du serpent. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il dit femme. Pour dire simplement que, c'est une image pour dire que la descendance qui allait venir écraser la tête de la femme allait venir d'une femme sans un homme. Si une femme accouche sans un homme, on ne peut pas dire homme, ta descendance. C'est parce que l'homme va avec la femme qu'ils ont un enfant. On dit l'homme et le père, c'est son descendant, c'est lui qui s'est engendré. Mais quand il s'agit d'une femme sans un homme, on ne peut pas dire homme. Jésus est venu d'une femme sans un homme. Ce mystère-là, Satan n'a pas compris ça. Il n'a pas compris. Or, Dieu a annoncé simplement que le sauveur qui allait venir détruire le diable, il allait venir des hommes. Mais il allait venir d'une femme sans un homme. Parce que c'est la femme, premièrement, que tu as induite en erreur. C'est par cette même femme que je passerai pour te détruire, Satan. Et je sauverai par là, y compris les femmes et les hommes aussi. Parce que c'est par la femme que tu es passé et tu as détruit l'homme et l'humanité. Je passe aussi par la femme et je sauverai l'homme et l'humanité. Alléluia. Donc, femme, vous êtes bénie dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a un mais, c'est notre message. Parce que toute cette partie-là, je dis, on va la traiter dans l'enseignement sur vaincre la chair, vaincre le moi. Dieu dit une chose. À cette descendance qui vient casser la tête du serpent, Dieu donne quand même un pouvoir au diable. Il dit, mais serpent, tu vas recevoir le pouvoir de blesser le talon. De la descendance de la femme. La descendance charnelle, poussière, tu la manges. La descendance de la femme, ça veut dire les chrétiens, ils te cassent la tête, mais toi tu peux les blesser. Genèse chapitre 3 nous révèle qu'en fait, que Dieu a décidé de vaincre le diable par la descendance qu'elle croit en Christ, mais elle dit aussi que Dieu a donné un pouvoir au diable de blesser les chrétiens. Et où ça? Au pied. Alléluia. Alléluia. Les talons, c'est le pied, n'est-ce pas? Le diable a reçu le pouvoir de blesser le pied. De blesser les pieds des chrétiens. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que c'est mon pied physique? Satan m'attaque par les pieds, il faut couper ton pied. Non. Il est question de choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Il est question de choses spirituelles. Blesser le pied n'est pas tuer. Nous, on a le pouvoir d'écraser la tête du diable, de le tuer. Mais lui, il a le pouvoir de nous blesser. Et une blessure, si tu ne la soignes pas, ça peut t'entraîner, ça peut te créer d'autres problèmes et pas finir même pour finir de te tuer. Mais c'est juste une blessure. C'est par ce pouvoir que le diable utilise pour influencer les chrétiens. C'est par là qu'il arrive à les opprimer, à les faire passer par des moments d'épreuve, à les attaquer, même pour un chrétien qui vit dans une vie d'intégrité, dans une crainte de l'Éternel. C'est par ce pouvoir de blesser les talons que Satan a pu avoir même le pouvoir de faire crucifier Jésus, de faire crucifier la descendance de la femme. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Sans quoi, celui qui te domine, tu n'as aucun pouvoir sur lui. Il fallait donc laisser au diable une certaine ouverture d'action, mais pas la capacité de nuire, définitivement. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous ayons c'est que nous ayons une victoire totale. C'est parce qu'il est parlé de blesser les pieds que Jésus a lavé les pieds des disciples. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup de passages qui parlent des pieds. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. La Bible dit de porter les chaussures du zèle de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et puis ensuite, c'est important encore qu'il vienne sur le pied. Moïse arrive à la montagne, enlève tes chaussures, parce que l'endroit sur lequel tu te trouves est saint. De même aussi que Josué, lorsqu'il a rencontré l'ange, enlève tes chaussures, car l'endroit sur lequel tu te trouves est saint. Est saint. Les pieds. Les pieds. Quand il est question de la descendance de la femme, il dit, c'est une descendance qui est déjà chrétienne. Chrétien. Jésus dit à ses disciples, vous êtes déjà purs. Celui qui est lavé. Ça veut dire qu'ils avaient déjà cru. Donc ils sont déjà lavés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne lui laisse plus que les pieds pour être entièrement purs. Et quel est le problème de la descendance? La descendance peut détruire le diable. Mais il reste quoi? Les pieds qui sont vulnérables. Jésus dit à ses disciples, vous êtes déjà lavés. Mais il reste vos pieds. Ce sera votre dernière vulnérabilité. Alléluia. On comprend? Qui Michel, ça va? Ok. Il reste les pieds. Le but de cette exhortation, mes frères, c'est de vous dire comment il faut que vous lavez vos pieds. Si vos pieds ne sont pas lavés, vous êtes vulnérables. Peut-être que ça ne va pas vous faire rétrograder. Ça ne va pas vous faire perdre la foi. Ça ne va pas vous faire abandonner le Seigneur. Mais ça va jouer sur votre élan. Parce que les pieds sont le symbole du zèle de l'Évangile. Si le diable arrive à atteindre vos pieds, il atteint votre zèle pour le Seigneur. Vous voyez des chrétiens qui sont zélés, motivés, pleins de feu et de flamme. Quand le diable attaque les pieds, paf, leur zèle prend un coup. Ils n'ont plus la même motivation, plus la même capacité de prier. Ils aiment toujours le Seigneur, ils ont toujours l'amour de Dieu, mais quelque chose les a quittés. Quand vous voyez un chrétien comme ça, ses pieds ont été blessés. Alléluia. Quelqu'un qui priait, qui jeûnait, qui veillait, qui était capable de passer 21 jours dans le jeûne de la prière, maintenant même pour arriver à jeûner, une demi-journée, c'est tout un problème. Les pieds. Et pourtant, l'amour du Seigneur est conservé. Si nous n'avons pas nos pieds, nous sommes vulnérables. Pas vulnérables à la mort, mais vulnérables à l'efficacité, vulnérables aux ailes, vulnérables dans la pureté parfaite des pensées. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, laver les pieds? Cela consiste en quoi, laver nos pieds? La première explication que le Seigneur m'a donnée, il dit, laver les pieds, c'est la sainteté. C'est l'ultime sanctification. Parce qu'il y a une première sanctification. C'est pourquoi Christ dit, vous êtes déjà tous lavés. Ils ont été lavés parce qu'ils ont cru en Christ. Donc lorsqu'on croit en Jésus, on est sanctifié. Tous nos péchés sont pardonnés. Mais celui qui a cru en Christ n'est pas entièrement pur. Il reste les pieds. Donc il a cru en Jésus. Mais donc, laver les pieds est un degré supérieur dans la sanctification. C'est une dimension supérieure de la sanctification. C'est une sanctification qui va jusqu'à vos mobiles profonds. Vos mobiles profonds d'action que vous remettez devant le Seigneur. Ce n'est plus une affaire de savoir ce que vous avez fait est bien ou mal. C'est dans ce cadre-là que j'ai donné le témoignage sur les deux billets de 500 francs. Vous savez, ce que j'ai fait en remettant le billet de 500 francs au frère et en gardant le joli billet, ce n'était pas une affaire de... J'étais plus en péché. Quand vous parlez de laver les pieds, vous abandonnez les péchés les plus évidents. Les péchés les plus grossiers qu'on connaît. On n'est plus dans le domaine d'impudicité, de mensonge, de vol. Non, ça c'est la première purification. Si vous êtes à ce niveau, que vous êtes encore dans l'impudicité, dans l'orgueil, la colère, le mensonge, frère, l'enseignement sur les pieds ne vous concerne pas. Lavez-vous d'abord le corps avant qu'on passe à laver les pieds. Celui qui ne s'est pas lavé n'a pas besoin qu'on lave les pieds. L'enseignement sur le laver les pieds, l'enseignement sur les pieds concerne les vrais enfants de Dieu. Ceux qui sont délivrés de l'impudicité, ceux qui sont nés de la femme, la postérité de la femme, ceux qui ont le pouvoir d'écraser le diable. Cela les concerne. Pas les gens qui sont encore charnels. Parce que ceux qui sont charnels, le diable les mange. Ils ne discutent pas sur leurs pieds, ils discutent sur tout leur corps. Si Christ ne t'a pas délivré de tes péchés, du mensonge, du vol, de l'impudicité, ce message ne te concerne pas. Garde-le en mémoire, mais prends une décision pour changer ta vie. Prends une décision pour te convertir. Arrête de vivre dans l'adultère, arrête de vivre dans l'impudicité, arrête de vivre dans ces choses. Donne ta vie à Jésus, change de vie. Pour comprendre la profondeur de laver les pieds. Ceux qui vivent selon les œufs de la chair, dit l'Écriture, ne seront pas sauvés. Et les œufs de la chair sont évidentes. Ce sont l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie, l'orgueil, les animosités, les méchancetés. Si vous êtes encore dans l'église au niveau de vous quereller, de critiquer, de vous asseoir en groupe, de vous critiquer les uns les autres, frère, on ne parle même pas avec vous de laver les pieds. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, là même encore, vous n'êtes même pas calculable. Il faut d'abord vous repentir de vos péchés. Mais ceux même qui sont repentis, qui ont cru en Christ, il y en a même qui vivent mal. C'est à ceux-là que l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu si vous continuez dans cette vie. C'est à ceux-là que Christ dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui font la volonté de mon Père. Quand on parle de laver des pieds, ce ne sont pas des choses qui vous amènent à aller en enfer, qui vous font perdre le salut. Ce sont des choses qui vous endommagent dans votre zèle, dans votre marche pour le Seigneur. Mais ce n'est pas un élément qui joue sur votre salut. Car ce qui joue sur votre salut, c'est le premier lavement dont Christ a parlé. Déjà, vous êtes pur, mais pas entièrement pur. Alors, si vous commettez les choses qui sont évidentes, si vous mentez, si vous volez, si vous trichez, vous tombez sur le joug de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, qui dit, ne vous y trompez pas. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils sont la nourriture du diable. Il va les manger et les partir avec un enfer. C'est pourquoi comprenons ces choses, mes amis. Mon souhait, c'est que Dieu puisse laver vos pieds. Et que vos pieds soient lavés. Mais sachez d'abord que votre corps doit être entièrement pur. Votre corps, pardon, doit être lavé. Avant de passer aux pieds. Que votre corps soit lavé, donc ça signifie ça. Donnez votre vie à Christ, passez par les eaux du baptême, repentez de vos péchés. Changez de vie. Arrêtez les choses qui déshonorent le Seigneur, arrêtez-les. Quand vous allez trouver dans un état comme ça, vous avez une bonne vie de sanctification. Vous marchez avec le Seigneur, vous suivez les voies de Dieu. En ce moment-là, Dieu peut vous parler de laver les pieds. Et en ce moment, prenez la cassette et réécoutez-la. Vous prenez des notes et puis réécoutez ce message. En ce moment, il va vous concerner. Vous allez le comprendre dans toute sa profondeur. Jésus pouvait dire à Pierre, maintenant tu ne comprends, mais tu comprendras bientôt. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. À cause de la mentalité, à cause de l'état de cœur que vous avez maintenant. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, pour ceux qui sont prêts, allons-y. Donc, la première des choses dans laver les pieds concerne la sanctification ultime. Je reviens sur le témoignage, donc, comme je disais tout à l'heure, de prendre les 500 francs avec le frère. Pour un chrétien normal, vraiment, même s'il a donné 500 francs, Dieu est déjà content. Parce que Dieu va lui dire, je n'ai même pas pensé à toi. Tu n'avais plus rien, mais tu as pensé. remboursé équitablement à ton frère. Tu lui as donné la moitié de ton bien. Dieu n'aurait même pas discuté avec eux pour un problème de beauté du pied. Il n'influence même pas la valeur. Donc vous comprenez, si vous n'êtes pas arrivé au niveau du pied, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous exauce des choses comme ça. Que tu vois ton frère qui est pauvre, qui n'a pas d'habit, et tu te lèves, quand tu vas lui donner un habit, je te bénis. Mais quand vous arrivez aux gens à qui on parle de laver les pieds, je leur demande pourquoi tu n'as pas donné ton meilleur habit. Alors tu discutes avec toi pourquoi tu n'as pas donné ton habit, alors tu discutes pourquoi tu n'as pas donné ta meilleure chemise. C'est devenu différent. Alléluia. Alléluia. C'est ça, laver les pieds. La sanctification ultime de vos pensées, vos mobiles. Alors je me demande, mais pourquoi j'ai voulu garder le joli billet? Pourquoi, dans le fond, pourquoi? C'est là commence à venir les pieds. Pourquoi j'ai voulu garder le joli billet? Pourquoi? Parce que quelque part, au fond de mon cœur, il y a un tout petit égoïsme. Quelque part qui est caché dans mon cœur, quelque chose en moi qui n'a pas renoncé entièrement à moi. Mais c'est tout petit dans le cœur. Parce que j'ai renoncé à moi en donnant la moitié déjà. Mais il y a quelque part quelque chose qui est tout caché, qui n'a pas encore parfaitement renoncé au soi. C'est ça aussi, laver les pieds. Tu dois toucher. Vos mobiles profonds, qu'est-ce qui vous amène à agir? Même quand vous faites le bien, à quoi vous pensez profondément? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose que Dieu demande à tous les chrétiens. Mais c'est à toi, parce que Dieu va aller plus loin avec toi. De toute façon, si tu n'en tiens pas compte, ce n'est pas grave, ça ne va même pas mettre en jeu ton salut. Et même, peut-être même tout t'a dessiné. Mais peut-être que tu n'auras pas le même zèle. Peut-être que quelque chose va s'arrêter plus tard avec toi. C'est beaucoup lié à l'enseignement que je donnerai plus tard sur l'enseignement sur les occasions de chute. Il y a beaucoup de liens avec ça. Mais l'enseignement sur les pieds va un peu plus loin. Alléluia. Frère, analysez vos pensées. Quand même dans vos offrandes. Quand vous êtes arrivé au niveau des pieds, on ne discute plus sur « j'ai mis beaucoup d'argent dans le panier ». Non, c'est plus ça. Les sentiments même qui vous animent quand vous faites votre offrande. La pensée que vous avez en offrant à Dieu. Des choses secrètes. Et pour beaucoup de personnes, tout ce que vous êtes en train de faire est bien. Mais pour Dieu, c'est encore plus profond. Cette partie d'intégrité profonde, morale profonde, va jusqu'à toucher le passage de l'amour de 1 Corinthiens chapitre 13. Ça rentre dans ce domaine. Qui dit, quand j'aurai même offri tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais ne sert à rien. Comment pouvez-vous condamner quelqu'un qui va offrir tous ses biens? Corinthiens chapitre 13. Il dit, il offre tous ses biens. Il n'a pas dit quand j'aurai offert une partie de mes biens. Il dit, quand j'aurai même offri tous mes biens, en 1 Corinthiens 13, pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais ne sert à rien. Comment vous pouvez juger quelqu'un pour dire, cet homme, il a pris tout ce qu'il avait, il a vidé sa maison, il a vidé tout ce qu'il avait, il a offert ça aux pauvres, et quelqu'un peut s'arrêter encore pour dire que cet homme n'a pas l'amour? Ça n'existe pas. Nous dirons tous, non mais jamais, non mais comme lui, il est trop bon. Mais Dieu dit, tu peux faire ça, mais ça ne veut pas dire que tu as l'amour. Quand tu n'aurais pas l'amour que tu poserais cet acte-là, ce que tu as fait n'est rien. C'est là où on parle de la vie des pieds, frère. Ce n'est pas quelque chose qui est apparent. C'est quelque chose qui est si profond au fond de votre cœur. Peut-être que celui qui a donné toute sa nourriture pour les pauvres avait un autre petit sentiment derrière. Je ne sais pas lequel. L'orgueil, m'as-tu vu, peu importe. Mais un tout petit sentiment. On parle de laver les pieds. Et ce sentiment-là, c'est par là que Dieu peut le blesser. Donc, dans laver les pieds, le premier élément qui lave le pied, c'est sanctifier vos profonds mobiles. La sanctification supérieure qui va, ça veut dire qu'il ne touche pas les aspects généraux de tous les chrétiens, de tous les bons chrétiens, mais qui va jusqu'à toucher pour que vous soyez meilleurs et parfaits chrétiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième élément dans laver les pieds, ça revient, c'est un élément qui revient toujours, c'est l'humilité. L'humilité. Parce que dans l'élément de laver les pieds, comme je l'ai dit tout à l'heure, je donnerai dans un deuxième enseignement sur les pieds. Là, je vous parlerai plus du diable qui rampait, donc qui a perdu lui-même ses pieds, et puis certaines choses. Je ferai une différence. Parce qu'il y a la nécessité soi-même d'avoir les pieds lavés. Et il y a l'acte que Dieu a demandé après de poser, c'est-à-dire, comme je vous l'ai fait, vous aussi faites-le les uns aux autres. C'est-à-dire, toi aussi tu dois laver les pieds des autres. Donc, il y a le fait d'avoir même ses pieds lavés, la nécessité d'avoir les pieds lavés, c'est-à-dire, le fait que Christ dise à Pierre, il faut que je te lave les pieds, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Donc, la nécessité d'avoir toi-même les pieds lavés, et la nécessité d'aller laver les pieds des autres. Il y a des choses qui viennent dans ça. Je prendrai les deux un peu en vrac aujourd'hui, je ne citerai pas les détails. Dans l'enseignement deuxième sur les pieds, je ferai par contre je ferai une séparation entre les deux, parce qu'il y a encore des aspects plus profonds dans les deux. Amen. Donc le premier élément, donc le caractère de l'humilité revient beaucoup dans le fait d'aller laver les pieds aux autres. Ça touche aussi le fait de se laver les pieds soi-même. Jésus va aller laver les pieds des disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien. Et c'est vrai, je le suis. Mais je suis venu vous faire. Je vous ai lavé les pieds. Je me suis comporté comme vos serviteurs. Vous aussi comportez-vous comme ça les uns les autres. Laver les pieds concerne aussi la profonde humilité. La profonde humilité. C'est parce que Pierre a eu les pieds lavés que dans le livre de Galates, il est question, l'apôtre Paul raconte une histoire. Il dit qu'un jour, Pierre et puis les autres étaient dans une ville, ils mangeaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils mangeaient. Et puis il y a des gens qui sont arrivés, des gens de la compagnie de Jacques. Jacques était un peu plus intègre, extrémiste, pas extrémiste, mais beaucoup plus lié un peu plus à la loi. Donc quand il arrive, Paul dit, Pierre et puis son entourage sont un peu cachés, ils ont fait comme s'ils ne mangeaient pas avec les païens. Quand Paul a vu ça, Paul dit, je l'ai repris, il l'a repris devant tous. Et ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et Pierre n'a pas réagi. Il a compris l'instruction de son frère Paul. Il était humble. Ça, c'est l'effet que produit quelqu'un qui a les pieds lavés. Ça, c'est le résultat des pieds lavés. Parce que l'apôtre Pierre, quand même, l'archibishop, celui à qui on a remis les clés, Paul, son petit, son fiston, l'enfant de son enfant spirituel. Tu viens, tu reprends le grand apôtre Pierre devant tout le monde. Et ici, tu sais que, comme on dit, ton vieux père, tu prends quelque chose, tu l'appelles de côté, et puis tu dis, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Comme tu es le doyen, tu te réponds quoi, il faut corriger ça. C'est comme ça qu'on parle. Paul l'a repris. On veut dire que Paul est grand. Paul dit la vérité, c'est vrai. Je pense que l'honnêteté, c'est de le prendre de côté et puis Pierre allait pouvoir venir se repentir après. Par respect pour son autorité. Mais Pierre a été grand. Moi, je trouve que Pierre était plus grand. Il était assez calme. Il devait plutôt regarder, pas à son honneur, pas à lui, mais regarder à la vérité de ce qui est en train d'être dit. C'est pas grave. Si c'est fait mal, c'est pas important. C'est une profonde humilité. Combien d'hommes de Dieu, mon frère, imagine-toi que tu es le doyen, combien d'hommes de Dieu sont capables de réagir comme ça? Si un de vos petits pasteurs vient et vous reprendre devant tout le monde, comment allez-vous réagir? Si place, tu as dit, tcha, non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Toi, tu t'es converti hier, là, tu comprends pas les choses de Dieu, ce que tu fais, c'est un mystère. C'est une révélation. On ne se comprend pas comme ça. Là, tu pries, tu fais des miracles, tu penses que tu comprends tout. Non, viens t'expliquer. Essaie de justifier quelque chose. Pendant qu'il avait tort. La profonde humilité, donc, crée ce résultat en nous. Ça veut dire le fait, à tout moment, pendant qu'on est les chefs, de pouvoir se retrouver tranquillement dans la position de serviteur, ne serait-ce que pour la gloire de Dieu. C'est ce que ça fait. De chef, je me retrouve à la position de serviteur, comme si j'étais ton inférieur, pendant que je suis ton supérieur, ne serait-ce que pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que les gens soient sauvés, Christ a lavé leurs pieds. Il a lavé leurs pieds, il s'est humilié. Il dit, vous m'appelez maître, seigneur, c'est vrai, je le suis. Mais je vous ai fait ce que les esclaves font. Vous aussi, faites-vous cela les uns aux autres. Apprenez à vous. Et pour faire cet exercice, laver les pieds, ne va consister à quoi? À faire ce que dans votre position d'autorité ou dans l'honneur que vous avez eu, quelquefois, vous n'êtes pas capable de faire. Quelquefois, il faut laver les pieds. Quand la Bible dit, faites ça souvent, c'est comme ça. Par exemple, moi, je peux dire, bon, aujourd'hui là, c'est mon maître, tu es trop connu d'Abidjan. Tu as une certaine notoriété, tout le monde te connaît. Or, avant, je prêchais dans les bus. Wororo. Maintenant, longtemps, j'ai une voiture, j'ai longtemps, plus wororo. En tout cas, je m'arrêtais dans les carrefours, je faisais des plein air, tout ça. Aujourd'hui, je ne le fais plus. À cause des occupations au sein de l'église, je suis occupé. Pas parce que j'ai peur de le faire. Mais quelquefois, se laver les pieds, c'est d'aller faire ce que vous considérez comme du bas de gamme. Ça vous rend simple. Ça vous prépare pour de grandes choses. Ce n'est pas le fait qui est grand. C'est la disposition du cœur que vous créez en vous. Vous ne faites pas pour vous faire voir. Parce que si vous le faites, si vous partez prêcher dans un wororo pour dire que, bon, si je peux prêcher dans une église de 3000 personnes et puis venir prêcher dans un wororo, là, vous désobéissez au premier principe de l'intégrité. C'est-à-dire ce que vous faites, ça n'est pas pour l'amour de Dieu. Mais vous le faites parce que vraiment vous voulez gagner des âmes. Et parce que c'est simplement pour vous humilier aussi. Ça aussi, laver les pieds. Alléluia. Alléluia. Donc, quelquefois, par exemple, une patronne peut prendre ses vidéos et puis les servir. C'est ça, laver les pieds de ses boys. Ce jour-là, elle dit au boy, non, tu fais rien. Et puis, elle qui fait tout. Bon, les gens vont dire, ah bien, si là, tu fais ça aux invités ici, ils vont te. Tu fais ça à ton boy, il va te créer tous les problèmes. Mais bref, en fait, il y a quelque chose que vous n'êtes plus capable de faire à cause de votre position aujourd'hui. Si vous ne voulez pas chuter et être vulnérable par votre titre et par votre position au diable, il faut de temps en temps aller faire des actes et redescendre. Par exercice de temps en temps, peut-être une fois l'année, une fois par mois, dans une régularité que vous allez déterminer. Mais ce comportement d'aller faire des choses simples, des choses les plus simples, d'aller faire ce que vos inférieurs font, d'aller le faire, de vous humilier et après de reprendre votre position, va vous garder, va protéger vos pieds du diable. Sinon, il est impossible que vous ne soyez mordu par le venin de l'orgueil. C'est pas possible. Le démon de l'orgueil va venir le venin de l'orgueil, la morsure du pied va finir par vous atteindre. Le troisième élément dans laver les pieds, donc, je reprends, on a cité l'intégrité profonde, on a cité l'humilité, c'est l'élément, c'est lui, différemment, ce n'est pas laver les pieds, c'est plutôt protéger les pieds. Mais comme je dis, j'inclus tout, hein, c'est plutôt protéger les pieds. Parce que si vos pieds sont lavés, ça veut dire que vos pieds sont lavés de toute souillure. Lavés de toute souillure pour vous approcher de la présence de Dieu, pour entrer dans l'intimité de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi je donne l'exemple de Moïse qui devait entrer dans une profonde intimité avec Dieu, qui avait besoin d'enlever les chaussures de ses pieds. Ça veut dire, en quelque sorte, d'entrer avec des pieds propres. Quand Josué avait rencontré l'ange, il dit, celui est saint, enlevez les chaussures, entrez dans un domaine de la sanctification. Ça veut dire donc, le premier élément traduit votre intimité avec Dieu. L'humilité que vous manifestez simplement traduit votre simplicité, votre humilité dans le Seigneur. Le fait de vous appliquer des caractères d'humilité en faveur des autres consiste en vous à leur laver les pieds. Si vous allez dans une église aujourd'hui et puis vous prenez vous laver les pieds des gens en tant que les pasteurs pour dire que Jésus a demandé de faire ça, est-ce que c'est un acte d'humilité? Est-ce que ce n'est pas devenu une institution? L'église considère que c'est un acte d'humilité. Oui, ce n'est pas vraiment un acte d'humilité. Ce n'est pas vraiment laver les pieds. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Or, au temps de Jésus, il faut savoir, je reviens là-dessus, j'oubliais, il faut savoir que ce sont les esclaves qui avaient les pieds. Quand, c'était une coutume habituelle, en fait. C'était une coutume. Quand quelqu'un arrivait les pieds, quand quelqu'un, par exemple, arrivait, quand quelqu'un arrivait chez quelqu'un, un homme de valeur, l'esclave du maître venait et puis lavait les pieds. On vient et puis on lave les pieds, on lave les pieds, on lave les pieds. C'est pourquoi Jésus a rendu ce témoignage. Donc, ça fait partie des coutumes de bonne arrivée. C'est un peu comme lorsque nous arrivons ici et puis on te donne de l'eau à boire, on dit, voilà, qu'on accueille quelqu'un. C'est pourquoi Jésus, un jour il était arrivé chez Simon, donc, un Simon, et quand il est arrivé là-bas, il y a une femme qui est venue, qui a commencé à pleurer et laver ses pieds. Et les gens l'ont critiqué, elle a dit, mais Simon, je suis arrivé chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais cette femme-là m'a lavé les pieds avec ses larmes. Elle est avec ses larmes. Oui, elle est avec ses larmes, elle a fait. C'était quelque chose qui était habituel. C'était une coutume juive. Quand vous arrivez, on vous lave les pieds. En fait, parce que vous avez marché dans la poussière, vous êtes fatigué, c'est mal, elle dit, bon, voilà, tu es bien arrivé, tout ça. Parce que les pieds, c'est le symbole de, si vous voulez, c'est le symbole de la partie de notre corps. Hein? Le pied, c'est le symbole de la partie de notre corps qui est en contact avec la poussière. Or, c'est la poussière qui est mangée, n'est-ce pas? Parce que quand on marche là, on marche la poussière, non? Donc, le pied là, pourquoi le pied a ce symbole? Parce que c'est la partie de notre corps. Ça veut dire, laver les pieds, c'est en fait les sentiments qui sont en nous, qui nous rattache un temps soit peu avec le monde. C'est ça là, il faut purifier en fait. Or, le pied, c'est la partie de notre corps qui est en contact avec l'élément que le diable doit manger, la poussière. Mais tout le reste de notre corps n'est pas en contact avec la poussière, sauf quand nous sommes couchés. Quand on marche tout en haut, c'est lui qui marche dans la poussière, c'est lui qui marche dans la saleté, c'est lui qui marche dans la nourriture du diable. Alléluia. C'est pourquoi en fait, c'est le symbole des pieds. En fait, c'est le symbole des pieds. Les éléments qui sont en nous, qui restent en contact avec le comportement charnel, qui ont un lien, même si c'est faible soit-il, qui ont un lien C'est ça, il fallait enlever les chaussures. Parce que ce sont les chaussures qui avaient le contact avec le sol pour rentrer dans la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire se couper cet élément pour rentrer dans l'intimité de Dieu. L'autre élément maintenant qui consiste à laver les pieds, c'est l'élément donc qui est plutôt pas laver les pieds, mais plutôt protéger les pieds après les avoir lavés. Après les avoir lavés, mais pendant, il faut les protéger des morsures du diable. Et la protection des pieds est faite par l'évangélisation. Dis à ton voisin l'évangélisation. Voilà, et c'est par là qu'on va terminer. Et on va se préparer bien sûr pour l'enseignement, le second enseignement sur laver les pieds. On va donner encore d'autres détails, d'autres enseignements, d'autres révélations. Donc, l'autre élément maintenant dans ce qui concerne la protection des pieds, c'est l'évangile. Donc, en Éphésiens, chapitre 6, verset 15, le Seigneur dit là, il dit portez les chaussures du zèle de l'évangile. L'évangélisation protège les pieds. Un chrétien qui arrête de prêcher Jésus, qui arrête de témoigner du Seigneur, a les pieds exposés à la morsure. Alléluia. Alléluia. Le chrétien qui applique les premiers éléments que j'ai donnés, l'intégrité, l'humilité, tout ce que j'ai cité, l'amour, tout ce que j'ai cité dans les premiers éléments, lave ses pieds des souillures. Mais si tu as fini de laver, il faut les protéger pour ne pas que ça se salisse encore. N'est-ce pas? La protection des pieds lavés, elle n'est conservée que par l'évangélisation régulière et constante. Amen. Amen. C'est pourquoi dans ce passage de Romains, le chapitre 10, le verset 15, et c'est bizarre, la plupart sont au verset 15, Genèse, Romains chapitre 10, verset 15, Genèse 3, 15, Éphésiens 6, 15. Vous n'avez pas remarqué ça? Jean 13, 15 dit quoi? On va voir ça. Jean 13, 15 dit quoi? Ça dit quoi qui l'a? Jean 13, 15 lui dit... Ah, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est plus simple que ça. Hein? Voilà, donc, en Romains chapitre 10, verset 15, il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ça veut dire quoi? Que celui qui annonce l'évangile protège ses pieds. De porter quelles chaussures aux pieds? Les chaussures du zèle de l'évangile. Celui qui annonce l'évangile a les beaux pieds. C'est vrai que c'est une image. Mais celui qui marche simplement dans la rue, qui se promène, ses pieds sont sales, il a besoin de les laver. Mais la Bible dit que ceux qui annoncent l'évangile ont les beaux pieds. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien arrête d'évangéliser, arrête de témoigner du Seigneur, il est sur la voie de la morsure. Il a été mordu. Il sera mordu. Il aura encore besoin d'aller laver les pieds chaque fois. Pour se garder pour garder ses sentiments purs, tout ça. L'évangélisation vous préserve. Témoigner du Seigneur dans votre vie, donner la vie aux gens, vous préserve, vous garde. Il faut témoigner du Seigneur. Ce sont les chaussures. Il faut être zélé pour la maison du Seigneur, zélé pour les choses de Dieu. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ce sont les choses que nous entendons souvent d'aller évangéliser, mais retenez une chose, frère. L'évangélisation fait partie des derniers conseils que Christ a donné à Dieu, que Christ a donné pendant l'Église. Allez partout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Le but de Christ, c'est que nous annonçons la parole de Dieu. Dès l'instant où nous arrêtons d'évangéliser, nous devenons vulnérables. Parce que nous ne donnons plus la vie. Jésus dit que si quelqu'un croit en lui, des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront de sa vie. Dès l'instant où vous n'évangélisez plus, vous n'êtes plus capable de donner la vie. Alléluia. Alléluia. Et lisons donc pour cela Luc 10. C'est par quoi nous allons terminer. Luc chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Notez donc, Satan tombe du ciel. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia, ce passage est beau. Ce passage est puissant. La Bible dit que tous les disciples étaient en train de revenir. Ils revenaient d'une évangélisation. Ils revenaient d'un témoignage. Il a dit plus haut, à partir du verset 1. La Bible dit que Jésus a appelé ses disciples et les envoyait deux à deux pour aller témoigner du Seigneur. Et au verset 17, il est dit, Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Qu'est-ce qui a fait vaincre le diable? L'évangélisation. Quand la Bible parle, il dit, « Je vous donne le pouvoir d'écraser. » On écrase comment? Avec le pied. Il faut écraser. Il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut évangéliser. Et qu'est-ce qui faisait tomber le diable du ciel? L'évangélisation. Et j'oublie encore un autre verset, un autre passage. Dans le livre d'Apocalypse. Laissez-moi le retrouver. Apocalypse, le chapitre 12, je crois. Au verset 11. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La parole de leur témoignage, c'est qu'ils ont annoncé de Dieu. Mais qu'est-ce qui a vaincu le diable? Le sang de l'agneau. C'est ce qui nous fait la première purification. La deuxième purification, la deuxième protection, le témoignage. Alléluia. Les chaussures du zèle de l'évangile. Annoncer la parole de Dieu. Frère, c'est important, gardez ces choses en vous. Un chrétien qui arrête d'évangéliser, un chrétien qui arrête de témoigner du Seigneur, un chrétien qui ne gagne plus les âmes, un chrétien qui ne parle plus de Dieu, qui n'est plus un témoignage devant de Dieu, fortifie le diable et lui-même s'apprête à être vaincu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des frères qui étaient extrêmement zélés. Quand ils arrêtent d'évangéliser pour des problèmes de travail, de tout ce qu'ils peuvent avoir, leur vie spirituelle prend un coup. Parce qu'en ce moment, le diable vient les blesser au talon. C'est pas qu'ils rétrogradent. Je dis, on ne rétrograde pas. Mais ils n'ont plus la même foi. Dès l'instant, ils commencent à trop calculer pour aller évangéliser. Dès l'instant, ils raisonnent trop. Dès l'instant, ils commencent à faire plein de calculs. L'évangélisation est une source de vie même pour le chrétien. Est une source de fortification et d'édification. Parce que les fleuves d'eau vive couleront de lui. Dès que vous arrêtez de faire couler les fleuves, vous commencez à mourir. Vous commencez à faiblir. Vous commencez à être souillé. Nous devons communiquer la vie de Dieu. Alléluia. Et ils ont vaincu le diable à cause de leur témoignage, à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Ils l'ont vaincu quand, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17, Jésus voyait Satan tomber du ciel. Ils l'ont vaincu pourquoi? À cause du sang de l'agneau, à cause du pouvoir qu'il leur a donné. Mais Dieu aussi, ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage, parce qu'ils évangélisaient. Alléluia. Et lorsqu'ils vont revenir, et Jésus va leur dire en ce moment-là, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est ce que nous a donné par le pouvoir, n'est-ce pas? Mais regardez ce verset 19. Il est différent de Genèse, chapitre 3, verset 15. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15, on nous a donné le même pouvoir. Écraser la tête du serpent. Ça, c'est Luc 10, verset 19, la première partie. Mais dans Genèse 3, 15, la seconde partie dit, mais lui te blessera le talon. Dans 19, il a dit quoi? Il ne pourra pas te nuire. En Genèse 3, 15, il peut te nuire en te blessant le talon. En Luc 10, 19, il ne peut plus te nuire. Alléluia. Ça veut dire, les deux passages sont les mêmes. Dans les deux passages, on écrase la tête du serpent. Dans Genèse 3, 15, il peut nuire. Dans Luc 19, il ne peut plus nuire. Pourquoi? Parce qu'ils ont les chaussures du zèle de l'évangile. Alléluia. La sanctification en croyant Christ est une sanctification d'office. Parce que vous avez cru.